Année 2008, guérison planétaire. Mars 2008, la mort au service de l'amour. Première partie.
Eh bien, bonsoir à tous. Savez-vous ce qui s'est passé il y a une semaine? Ce qui s'est passé d'important, de fondamental, d'extraordinaire, le 26 janvier. Non? C'est passé inaperçu? Eh bien, figurez-vous que Pluton est rentré dans le Capricorne. Ça vous parle, hein? Hein, on sent que là, vous êtes vachement motivé. Bon. Pluton est rentré dans le Capricorne. Alors, c'est intéressant de commencer un petit peu à voir ça, parce que ça a un impact, bien sûr, en rapport avec l'énergie poisson. L'énergie poisson, qui est l'énergie sur laquelle nous travaillons ce soir, eh bien, est très en rapport avec l'énergie de Pluton. Pluton, c'est une planète qu'on va dessiner comme ceci, à savoir comme une flèche, vous voyez, donc vers le haut. C'est pas comme ça qu'on la dessine généralement dans les manuels, mais la manière ésotérique, c'est celle-ci. C'est-à-dire que ça nous met bien en rapport avec cette énergie planétaire qui est l'énergie du rayon 1 et qui est l'énergie qui cherche justement à libérer l'âme de la forme, à libérer l'essentiel de ce qui est inessentiel. Donc c'est pour ça que c'est une énergie de libération, une énergie de mort. Donc toutes les énergies de la mort, eh bien, sont mises en rapport avec cette énergie Pluton. Alors, pour commencer, c'est important pour essayer d'illustrer justement cette période d'entrée donc dans le Capricorne, d'essayer de voir avec vous, pour, comme ça, un petit survol, parce que ça nécessiterait une conférence complète, mais là on n'a pas le temps, mais juste un petit survol de l'effet de Pluton, et donc de l'effet de la mort, à travers justement les dernières années. Je dis bien les dernières années parce que Pluton a été découverte en 1932, donc c'est vraiment une découverte extrêmement récente, donc on n'a pas forcément l'expérimentation par rapport à quelque chose de beaucoup plus lointain. On pourrait dire que c'est une énergie qui commence seulement maintenant réellement à faire son effet. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette énergie agit d'une manière planétaire, en libérant donc quelquefois des éléments essentiels, d'éléments donc un petit peu vieux, cristallisés, encombrants, et comment justement ça agit à travers ce qu'on pourrait appeler le côté bas d'une énergie, le côté formel d'une énergie. Alors regardons par exemple à travers ces dates. Eh bien, on va commencer à prendre Pluton en 1914. En 1914, Pluton rentre dans le Cancer. Voilà. Énergie Cancer. Sachant que l'énergie Cancer, c'est une énergie de mise en forme. Et que la mise en forme, justement, souvent, et par rapport d'ailleurs au sujet qu'on va voir ce soir, eh bien la mise en forme est souvent très encombrante. C'est quelque chose qui fait que dans cette mise en forme, il y a réellement une tendance à garder la forme sans s'occuper du fond. Et donc c'est très très lourd généralement. En 1914, donc, nous avons quelque chose qui est en rapport avec un vieux monde. La guerre de 14 est grandement due au colonialisme. Elle est grandement due au fait qu'il y a des difficultés justement entre l'Allemagne et l'Angleterre sur ce terrain du colonialisme, particulièrement en Afrique. Il y a une grande rivalité. C'est tout un vieux monde justement, toute une vieille mise en forme qui craque lorsque Pluton donc va rentrer donc dans ce signe du Cancer. Il va y rester longtemps puisqu'il va rester jusqu'en 1939. Eh ouais. Et en 1939, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le lion. L'énergie lion, c'est l'énergie de l'affirmation du moi, du moi-je, de l'indépendance, de l'autonomie, de l'individualisme. Je prends volontairement, vous notez, les aspects inférieurs, hein, puisque c'est de cela que Pluton va essayer de libérer. Et bien justement, en 1939, Dieu sait si on a eu un petit peu des ennuis avec certains nationalismes, les hyper-nationalismes, des dictateurs et toutes sortes de personnes qui se la jouaient justement tout à fait personnelles. Bon, continuons. En 1956... Alors, les temps, les écarts ne sont pas égaux, parce que Pluton a une orbite elliptique, et donc elle ne reste pas du tout le même temps dans les mêmes signes. En fait, Pluton va rester entre 12 ans, au plus proche, comme on va voir tout à l'heure, et 32 ans dans le même signe. Donc ça dépend à quel endroit de l'ellipse elle se trouve. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout égal entre les mêmes choses. Donc en 1956, Pluton rentre en Vierge, et va y rester donc jusqu'en 1972. Ça veut dire que toutes les années 60, toute la révolution, toute la nouvelle société. Le twist, la société des 60s, toute la rénovation, toute cette jeunesse de l'après-guerre qui rénove, qui... c'était nous. Et donc, toute cette jeunesse fort sympathique au demeurant et qui a fait le scandale en chantant avec les cheveux longs, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a redéfini tellement de choses et on a eu justement une espèce de feu d'artifice, pas uniquement en France, mais dans le monde, en 1968, aussi bien donc aux États-Unis, aussi bien donc à Prague, aussi bien donc en France. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que ces années 68, Woodstock, etc., eh bien, ont été une remise en question. La Vierge, vous savez, c'est justement cette remise en question de tout. On a souvent parlé de la Vierge et de son symbole, dans lequel les trois jambages du M représentent eh bien, le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, et on essaie de découvrir autre chose. Bien, c'est extraordinaire de voir comme Pluton, justement, a secoué un petit peu toute cette énergie et a permis de faire ressurgir donc des choses nouvelles. 1972, Pluton rentre dans la Balance. Il va y rester jusqu'en 1984. La Balance, c'est le signe de l'équilibre, du juste rapport entre les énergies, ou bien, au niveau inférieur, des injustes rapports. Eh bien, 2 ans après que Pluton soit rentré dans la Balance, en 1974, c'était ce qu'on appelle la fin des 30 glorieuses. C'est-à-dire que finalement, c'était le premier choc pétrolier, et que l'injuste rapport qui existait entre les pays les plus riches, qui étaient en pleine reconstruction, et ceux qu'on utilisait, parce que on utilisait le pétrole des pays arabes absolument, bon, en le sous-payant, en s'occupant pas du tout d'eux, etc. D'un seul coup, il y avait une espèce de premier rééquilibrage dans le monde. Donc, toutes ces années de 72 à 84 a été un très important rééquilibrage dans le monde, avec entre le pays entre l'Est et l'Ouest, entre l'URSS et les États-Unis, et ce qu'on a appelé les pays non alignés, qui étaient au centre. Et donc, il y a eu tout un grand mouvement comme ça, si vous voulez, qui ont fait que de cette époque-là, eh bien, il s'en est ressorti un nouvel équilibre mondial. Bousculade dans cet équilibre. En 1984, alors là, on l'attendait avec impatience. Pluton est rentré dans le Scorpion. Et comme il y a une grande affinité entre l'énergie Scorpion et l'énergie de Pluton, puisque le Scorpion, c'est aussi donc une énergie de mort-renaissance. Donc tout le monde se demandait, alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, on s'attendait effectivement à pas mal de remue-ménage au niveau mondial, et on n'a pas été déçus, puisque finalement, eh bien, la chute du mur de Berlin, la fin de l'URSS, ont fait partie un petit peu des événements mondiaux qui ont aussi amené donc à vivre tout à fait d'autres choses. De même que le Scorpion était très en rapport avec la sexualité, en rapport avec le sang, et comme par hasard, ça a été le début du sida. Donc vous voyez, c'était vraiment, c'était un beau feu d'artifice, on n'a pas été déçus, on a eu pour notre argent. Pluton en Scorpion, très, c'est très efficace, ça a bien remis des choses en question. Et puis donc, en 1996, eh bien Pluton est rentré dans le Sagittaire. Jusqu'à maintenant, puisque en 2008, il vient d'en sortir. Bon, tout à fait, il va encore un petit peu... Pluton va rentrer dans le Capricorne pendant 6 mois, il va en ressortir de juin à peu près à novembre, il va refaire un petit tour dans le Sagittaire, et puis à partir du mois de novembre, il sera définitivement dans le Capricorne. Donc l'année 2008 apparaît comme une année, comme ça, un petit peu de passage entre les deux. Eh bien, de 96 à 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Sagittaire, c'est une énergie donc de but. C'est une énergie, je vous rappelle la parole clé du Sagittaire, je vois le but, je l'atteins, j'en vois un autre. Donc c'est vraiment une énergie au cours de laquelle les idéaux sont importants. Au nom de quoi faisons-nous les choses? Quel est le but? Où est-ce qu'on va? Eh bien, on peut dire que de 1996 à 2008, c'est la fin de tous les idéaux qui comptaient depuis très longtemps. Ça veut dire qu'on s'aperçoit que en 12 ans, on s'aperçoit que ça a mis fin à tout ce que les gens pouvaient croire ou s'imaginer qui pouvait sauver le monde. Il est maintenant à peu près une notoriété publique. On sait très bien que c'est pas la religion à l'ancienne qui va sauver le monde. C'est pas pu. C'est pas le communisme. C'est fini. C'est pas le libéralisme. On est complètement déçu. C'est pas la politique. On est revenu de tout. À quel point, si vous voulez, que l'interrogation principale des gens, c'est ça a quel sens tout ça? Mais on va où? Mais c'est quoi le but de cette histoire? Parce que tous les idéaux qui nous proposaient des buts auparavant, c'est fini. Il n'y en a plus. Et comme par hasard, dans les toutes dernières années de Pluton en Sagittaire, donc depuis 4-5 ans, on voit apparaître un nouvel idéal, le premier idéal mondial qui est au-dessus des partis, au-dessus des pays, au-dessus des clivages religieux, etc., l'idéal de la planète Terre, un idéal écologique, un idéal sauvons la Terre. Ce premier idéal, vous voyez, qui surgit parce que tous les autres, maintenant, ils ont fait leur temps, c'est terminé. Je ne dis pas qu'ils ont fait faillite, hein. Vous notez, ils ont fait leur temps. Car c'est justement un point très important dans la mort, qu'on reverra tout à l'heure à la fin, c'est de voir combien tout ce qui est, à un moment donné, les idéaux, les idées, les religions, les politiques, tout ce qui, à un moment donné, existe, a toujours été juste au moment où c'est vécu. Mais à un moment donné, c'est quelque chose qui devient caduque et qui doit mourir pour laisser la place à d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'il faut bien dire que, non pas que ces idéaux ont fait faillite et qu'on est tous déçus, non, ils ont rempli la place qu'ils avaient à prendre, seulement maintenant, on est effectivement passé à une autre histoire. Alors 2008, on va se coltiner, donc Pluton en Capricorne, jusqu'en 2024. Et oui, le temps commence à s'étirer. On était là au plus court, maintenant on commence à aller plus loin, 16 ans. C'est-à-dire que, oui, ça va laisser effectivement des traces. Alors qu'est-ce que c'est que le Capricorne ? Bien, le Capricorne, le mot clé du Capricorne, c'est le mot maîtrise. C'est le signe des maîtres de sagesse, lorsqu'on est maître de quelque chose. Au niveau inférieur, c'est ceux qui se croient les maîtres. C'est tous ceux qui contrôlent, qui maîtrisent les situations, les autres, le monde, la planète, les structures, et tous ceux qui justement veulent contrôler et ne pas lâcher prise. Eh bien, Pluton en Capricorne va apprendre à quelques-uns qui se croient les maîtres que finalement ça va casser, qu'ils ne vont pas être les maîtres longtemps, que c'est pas comme ça que ça qu'on peut s'y prendre. Donc, si vous voulez, il va y avoir un branle-bas de combat dans un bon nombre de situations, de structures, de systèmes qui se croient maîtres du monde, qui se croient définitivement installés, et qui vont apprendre quelque peu, à leur dépend, que non, ça ne marche pas forcément comme ça. Il va y avoir, donc, vous voyez, beaucoup de transformations au cours de ces 16 ans dans des choses qui pourraient nous paraître très, très dangereuses actuellement, ou justement très contrôlantes au niveau du monde, et qui finalement vont avoir un coup d'humilité. Ce qu'amène généralement l'enseignement dans le Capricorne, c'est l'humilité. Soyons humbles devant la réalité plus importante que nous et ne croyons pas contrôler comme ça éternellement les choses. Voilà un petit peu ce qui se passe, vous voyez. C'est pour ça que ça va être une période très intéressante qui certainement ne se passera pas sans douleur puisque des structures qui s'effondrent ou des personnes qui contrôlent et qui s'aperçoivent qu'ils contrôlent rien, ça va faire drôle. Surtout que je tiens à prévenir quand même ceux qui sont du signe du Capricorne ou ascendant Capricorne. Tôt ou tard, Pluton va passer sur leur soleil ou sur leur ascendant et ils vont sentir également passer ce que c'est que ne pas garder le contrôle. Je rassure les Sagittaires, ça vient de finir. Mais vous avez dû le sentir. À certains moments donnés, quand ça s'est passé dessus, allez vous apercevoir de ce que ça pouvait donner. Donc ça c'est au niveau individuel, mais au niveau collectif, eh bien, c'est vraiment très important de voir que Pluton, qui régit la fin des systèmes, eh bien, régulièrement amène sur Terre à faire le ménage. À faire le ménage de toutes les structures de pensée idéologiques ou tout simplement physiques qui ont fait leur temps, qui ont apporté ce qu'ils avaient apporté et puis qui maintenant doivent justement être, relégués au magasin du cimetière de manière à pouvoir faire de la place complètement à d'autres énergies. Voilà un petit peu l'histoire, vous voyez, de Pluton. Et je vous le disais, c'est une planète qui est très importante dans les poissons. C'est pour ça que le thème de ce soir, c'est la mort. Donc nous sommes vraiment sur un signe qui nous incite à trouver, à réfléchir sur la mort. Alors avec ce paradoxe, la mort au service de l'amour pour ce soir. La mort au service de l'amour. C'est effectivement très très paradoxal parce qu'on n'a pas l'habitude de faire un rapport entre l'amour et la mort. On trouverait ça plutôt pas de bon goût. On aurait plutôt tendance à penser que justement, quand on aime et quand on est dans l'amour, la mort, il ne faut pas trop y penser. Et pourtant, c'est intéressant de voir qu'effectivement, la mort n'est pas du tout au service d'une déstructuration. C'est pas au service de quelque chose qui est une espèce d'échec, une fin, mais au service de l'unité. C'est quelque chose qui est au service de l'amour. C'est pour ça que finalement, la mort et Pluton sont des énergies de progrès. et non pas des énergies de faim ou de quelque chose qui finit mal, justement. Cette énergie de progrès. Et c'est ça qu'il faut essayer de voir, justement, ce soir. Comment est-ce que Pluton peut être une énergie de progrès et de quelle manière la mort peut servir réellement l'amour, l'unité. Alors, essayons de voir ça de plus près. Alors, je vais rappeler certaines choses donc que la plupart d'entre vous connaissent très bien, puis j'ai rappelé il n'y a pas très très longtemps, mais un petit rappel nous fera du bien, d'autant plus que c'est très très important pour bien parler de la mort, de faire la différence justement entre ces différents éléments. Alors, essayons de mieux percevoir, justement, pour bien situer le monde des formes, d'où elles viennent, par rapport à quoi, et finalement donc, quel est le grand schéma du système dans lequel nous vivons. Eh bien, premier élément, on décrit, comme je vous l'ai souvent dit, le système cosmique dans lequel nous sommes, et même au-delà, on pourrait dire tout l'univers, comme une seule et même grande vie. Donc, on pose au départ qu'il y a une seule et même grande vie. Une vie une. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Donc, tout ce qui existe, les galaxies, les systèmes solaires, les planètes, et tout ce qui vit sur les planètes, tout ça, ça partage la même grande vie. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, les formes n'ont pas l'apanage de la vie. Ça veut dire que quand on va tuer quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on supprime une vie. De même que lorsqu'une femme donne naissance à un bébé, elle ne donne pas une vie. On supprime une forme de vie, ou on donne naissance à une forme de vie, mais pas la vie. La vie est. Voilà pourquoi, première chose, il ne faut surtout pas opposer la vie et la mort. C'est absolument pas le contraire. La mort, comme on va le voir, est le contraire de la naissance. C'est-à-dire, c'est la porte d'entrée, la naissance, et la porte de sortie, la mort, dans un monde de formes, physiques, denses, que nous reconnaissons. Mais la vie est, de toute façon, on ne peut pas du tout la supprimer, ni même s'en sortir. La vie est vraiment quelque chose qui est absolument inimaginable pour nous, puisque c'est cosmique. Mais ça, si vous voulez, c'est une des plus belles, un des plus beaux défis, on pourrait dire, de méditation, entrer dans la vie. On va en reparler. Cette vie, elle est composée de deux éléments. Ces deux éléments qu'on appelle l'esprit et la matière. Bien. Eh bien, l'esprit et la matière, ce sont les deux composants de cette grande vie. Ça peut paraître bizarre de dire que dans la vie une, il y a quand même deux composantes. Bah oui, dans cette grande vie gigantesque, il y a quand même deux éléments. Ce qu'on pourrait définir, c'est que l'esprit, c'est ce qui est le plus subtil. C'est l'élément vibratoire le plus essentiel, le plus subtil. Et la matière, c'est l'élément vibratoire le plus dense, qui vibre plus lentement. Un peu comme, si vous voulez, des notes d'un piano. Le plus aigu, c'est une vibration très très rapide, alors qu'une vibration grave est beaucoup plus ralentie. Donc on a, finalement, de l'un à l'autre, et d'octave en octave, on a tout un rapport entre l'esprit et la matière. Si bien que il y a d'une part, on pourrait dire, une dualité entre l'esprit et la matière, une dualité vibratoire, mais en même temps, ce sont les deux éléments de la même chose, de la même réalité. On ne peut pas les séparer. Alors, est-ce que nous, on a l'expérience de ça? Ben, de l'esprit, non. L'esprit, on n'a pas du tout l'expérience de ça. Aucun livre mystique ne nous parle véritablement de l'esprit. Parce que les gens qui sont dans l'expérimentation de l'esprit, ils sont tellement au-delà de ce que nous pouvons connaître, et surtout, ils ne vont pas le décrire avec des termes que nous possédons nous, parce que ce serait impossible. Donc tous les livres mystiques nous parlent de l'âme, mais pas de l'esprit, qui est une vibration beaucoup plus élevée que l'âme. Voilà pourquoi, si vous voulez, on a très peu d'expérience de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Bah, c'est notre être essentiel. C'est notre participation à la grande vie une. C'est comme si c'était une étincelle dans cette gigantesque vie. Comme si c'était un point de vie, un tout petit point de vie fondamental faisant partie de cette grande vie une. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est complètement relié donc à la grande vie. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. Le reste est assez mystérieux. Alors, on a tendance à se dire, la matière, au moins, ça, on sait ce que c'est. Ça, pas de problème, on en a l'expérience. Pas plus. La matière, on ignore absolument ce que c'est. On n'en a aucune expérience. Les scientifiques actuellement sont en train de rechercher. On croyait avant que c'était de l'atome, pas du tout, l'atome c'est déjà une forme. C'est des particules, c'est déjà des formes. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, on est en train de le chercher. Qu'est-ce que c'est vraiment que la matière? C'est de l'énergie, c'est de la substance, ce sont des mots un petit peu synonymes. Tantôt ça apparaît d'une manière formelle comme la matière ou d'une manière plus énergétique. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, on est toujours en train de le rechercher. Donc en fait, on n'a pas l'expérience non plus de la matière. Voilà. Et alors, quel est l'intérêt de la chose? Dans la mesure où on ne connaît ni l'un ni l'autre, et les hypothèses, justement, donc au niveau ésotérique, nous disent, tous les enseignements nous disent, le grand but de cet univers, en tout cas de celui dans lequel nous sommes, le partiel dans lequel nous sommes, c'est d'unir l'esprit et la matière. C'est de réussir à remonter la matière vers l'esprit, ce qu'on appelle spiritualiser la matière. On retrouve un petit peu des choses comme ça dans les enseignements chrétiens avec la rédemption de la Vierge, l'assomption de la Vierge, quand on dit que la Vierge a été élevée au ciel. Il n'y a pas de tombeau de la Vierge symboliquement. Donc tout simplement parce qu'il y a justement cette élévation de la matière dont elle est composée. C'est ça, c'est finalement spiritualiser la matière. Ce qui pour nous ne donne pas grand-chose, puisque finalement on ne connaît ni l'un ni l'autre. Donc d'une manière pratique, on ne peut pas dire que ça nous donne une orientation de travail quelconque. Heureusement, l'esprit et la matière, qui ne peuvent pas agir l'un sur l'autre, tellement ils sont vibratoirement éloignés l'un de l'autre, ils vont créer tout de même un rapport, que je vais symboliser en dessinant un 8, puisque ça nous met, vous voyez, un petit peu dans ce rapport, comme ça, entre les deux, il y a une espèce de mouvement qu'on peut faire, donc à travers l'esprit et la matière. À noter que l'esprit et la matière sont à l'origine de la grande dualité qu'on connaît partout. Quelquefois, on pourrait croire que la dualité est une histoire qui est purement humaine ou purement terrienne, pas du tout. C'est quelque chose qui appartient à l'univers, du fait même que la vie une est à la fois esprit et matière. Mais c'est une dualité paradoxale, puisque de toute façon, quelque part, ils sont reliés, mais il faut le démontrer. On dit d'une manière encore plus précise que le rôle de cette histoire gigantesque à laquelle nous travaillons, c'est de révéler la matière en tant qu'esprit. Alors, au centre de ce 8, à l'endroit du croisement, il y a un principe médian qui apparaît. Ce principe médian, c'est l'âme. L'âme, donc, n'est ni esprit ni matière, mais résulte du rapport entre les deux. L'âme naît du rapport entre l'esprit et la matière, du frottement entre l'esprit et la matière. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mieux appréhender. L'âme, c'est quelque chose que nous sommes, c'est quelque chose que nous percevons, c'est quelque chose donc vers lequel nous pouvons travailler, et donc nous allons pouvoir voir quel est ce travail, évidemment, avec l'âme. Et donc, vous voyez, l'âme va être un principe médiateur. L'âme est assez basse pour pouvoir travailler avec la matière. Et elle est assez élevée pour pouvoir travailler avec l'esprit. C'est comme si l'âme pouvait à la fois entretenir un rapport avec l'un et avec l'autre, de manière à créer progressivement une union des deux. Après quoi, l'âme se retire. Donc vous voyez, l'âme, c'est vraiment un processus intermédiaire et momentané. Donc c'est vraiment quelque chose qui va travailler à faire ce travail, justement, d'union de l'esprit et de la matière. Alors comment va-t-elle s'y prendre, l'âme? L'âme, elle va s'y prendre tout simplement en prenant de la matière, en attirant de la matière. Donc, point important, c'est toujours l'âme qui crée, donc à travers la matière, qui va créer des formes. Elle va créer tout simplement ce qu'on appelle des formes. Alors, qu'est-ce que c'est que des formes? On pourrait dire tout d'abord, c'est toutes les formes de vie que nous connaissons. C'est-à-dire toutes les formes de vie qu'elles existent depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Ça peut être aussi bien une galaxie, une étoile, une planète, un humain, un animal, une bactérie ou un atome. Tout ça, ce sont des formes. C'est-à-dire que dès que nous pouvons reconnaître, nous, quelque chose, dès que nous pouvons étiqueter une forme en disant ça, c'est une molécule d'oxygène, ça, c'est telle bactérie, ça, c'est un éléphant, ça, c'est un arbre, ça, on peut dire que ce sont des formes. La matière, on ne peut pas l'étiqueter. On ne sait pas encore ce que c'est. Il n'y a pas de tas de matière quelque part, vous voyez. Dès qu'on peut reconnaître quelque chose, c'est évidemment donc une forme. Donc l'âme crée des formes. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'elle fiche dans ces formes? Ces formes sont en quelque sorte des petits tas de matière. Des rassemblements, des agglomérats de matière. Et c'est au sein, justement, de cet agglomérat de matière, où il y a aussi, bien sûr, de l'esprit, eh bien, que le travail d'union va se faire. L'âme, au lieu de faire une espèce de travail en général, du point de vue d'une espèce d'esprit très global ou d'une matière extrêmement globale, eh bien, ça va se faire d'une manière parcellaire. Comme si chaque forme, encore une fois, que ce soit une bactérie, un humain, une planète, comme si chaque forme était un laboratoire plus ou moins grand, au sein duquel l'âme cherche à rapprocher l'esprit et la matière. Dans chaque forme, quelle qu'elle soit, le travail de spiritualisation de la matière se fait. Voilà. Ça, c'est le travail de l'âme. Et donc, vous voyez, il va donc se créer un rapport, je vais redessiner un 8 entre l'âme et la forme, un rapport, encore une fois, entre l'âme et la forme. Et là, au croisement, qu'est-ce qui surgit? Ce qu'on appelle la conscience. Voilà. La conscience naît du rapport entre l'âme et la forme. Pour comprendre ça, il suffirait que vous voyiez mon 8 avec le croisement qui se déplace. C'est-à-dire qu'on imaginait que le croisement se fasse tout à fait en bas vers la forme, ce serait une conscience très formelle, dans laquelle l'âme n'est très peu présente. Là, on pourrait dire une conscience, vous voyez, où l'âme commence déjà un petit peu à se faire sentir. Et si mon 8 se termine plus vers le haut, si le croisement se fait plus vers le haut, on pourrait imaginer là une conscience beaucoup plus élevée en rapport avec l'âme. Donc vous voyez, on pourrait imaginer que la conscience, c'est tout simplement une espèce de rapport, une espèce de curseur qui se déplace comme ça à travers mon 8 et qui fait que, eh bien, on a ou bien une conscience un peu basse au niveau formel, au niveau encore très ignorant du monde de l'âme, et puis plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte, et plus on arrive à un moment donné où on est vraiment conscient en tant qu'âme. Voilà un petit peu, si vous voulez, le travail qui va se faire donc en ce qui concerne donc l'âme, les formes et la conscience. Alors vous voyez, c'est important parce que qu'est-ce qu'on peut voir à travers ce processus? Ben d'abord, quelque chose à l'arrière-plan, ce grand travail sur l'esprit et la matière, qui nous échappe complètement dans un premier temps. Et un deuxième travail que lui, nous pouvons beaucoup mieux reconnaître, parce que la conscience, un état de conscience, ça on sait ce que c'est. Une forme, on sait ce que c'est. Notre forme, nous, c'est la personnalité avec notre mental, notre émotionnel et notre physique. Ça, on sait ce que c'est. Et l'âme, justement, quand on commence à travailler et à se poser ce genre de questions, quand le curseur, vous voyez, commence un petit peu à monter au-delà de 50%, on pourrait dire, eh bien, on commence à deviner ce que c'est. Ou on commence à vivre ce que représente, justement, cette âme. Voilà pourquoi ça, c'est le travail tel que nous pouvons le faire. Mais, souvent, vous voyez, on ne comprend pas l'intérêt de ce travail, on ne comprend pas justement ce qui va se passer du point de vue de la forme, parce qu'on ne sait pas qu'à l'arrière-plan, il y a quelque chose d'autre comme travail. C'est que ce travail de l'âme sur la forme n'est pas un but en tant que tel, ça n'est qu'un moyen. Le but, c'est le travail sur la vie, sur l'esprit et la matière. Voilà pourquoi les formes vont être amenées constamment à changer, à disparaître, à mourir. Comment est-ce qu'on pourrait dessiner ça? Eh bien voilà, on pourrait faire un petit schéma très pratique qui permet de bien visualiser l'histoire. Voilà par exemple, je représente ici l'âme par un petit cercle. Et cette âme dans un cercle, qui est le cercle, pardon, eh bien je l'incarne dans un carré qui représente la forme. Oui, il y a de la place entre le petit cercle et le carré. Eh bien, on voit donc l'âme au travail, donc dans une incarnation, pour essayer de spiritualiser progressivement la matière. Il n'y a pas de baguette magique. Ça ne peut pas se faire du premier coup. Il faut bien se rendre compte que tout le travail de l'âme, qui est avant tout amour, d'où le nom qu'on lui a donné, c'est-à-dire, en termes de rayon, rayon 2, amour-sagesse, que tout le travail de l'âme consiste à amener l'amour dans la matière, qui en est totalement dépourvue. Il faut réussir justement à conférer cette qualité d'unité d'amour dans le monde de la matière. Et donc c'est pour ça que si vous voulez, ce travail ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique comme ça en disant « Tiens, ça y est, moi âme, puisque je suis puissant, je transforme la matière. » Non, ça n'existe pas. Ça va prendre énormément de temps. Ça va être très long. Au départ, l'âme justement dans la forme, elle est complètement prisonnière dans un monde de matière très lourde, très dense. Et ça n'est que très progressivement qu'elle va arriver à transformer les choses, petit bout par petit bout. Alors voyez-vous, ben, on peut imaginer une deuxième phase. Je redessine mon carré, mais cette fois-ci, on va imaginer que mon cercle est beaucoup plus grand. Vous voyez, il occupe tout le carré. Ça veut dire que l'âme a bien travaillé au sein de la forme, que le travail, il est maximal, qu'elle ne peut pas faire plus, et que maintenant, voilà, par rapport à la forme donnée, par rapport aux possibilités qui étaient présentes, elle a fait le maximum. Alors, fin de partie. Alors, c'est la mort. Ça veut dire que tout simplement, je représente à nouveau mon carré, mais avec des pointillés, pour bien montrer que l'âme éclate la forme de l'intérieur. Et puis alors, après des petites vacances bien méritées, ça j'en suis pas sûr, mais j'aime le raconter. Dans certains textes, c'est pas évident qu'il y ait des vacances. Alors bon, voilà. Eh bien, l'âme repart dans une nouvelle forme que je vais écrire, oui, beaucoup plus grande, pour recommencer un travail de plus grande ampleur et à nouveau le mener donc à terme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite à l'infini. Voilà le travail, vous voyez, donc, de l'âme à travers des formes, de la relation de l'âme à travers des formes. Alors qu'est-ce qu'on voit à travers ça? À travers ce dessin, la première chose que l'on voit, c'est que la forme, à tous les coups, elle meurt. Tous les coups. Il n'y a pas une seule forme qui est destinée à demeurer tout le temps. Pas une seule. Que ce soit une forme d'une galaxie, que ce soit celle de notre propre étoile, que ce soit celle de la Terre, que ce soit la nôtre, n'importe quoi. Toutes les formes, à la fin, elles meurent. Ce qui indique bien que finalement, qu'il n'y a aucun plan pour les formes. Le plan, il est bien pour l'esprit et pour la matière. On va le voir après. Deuxième élément, c'est que finalement, c'est l'âme qui, à chaque fois, décide de la mort. C'est à chaque fois l'âme qui fait casser la forme de l'intérieur, parce que c'est une limitation. Et finalement, eh bien, plutôt que d'être limité, eh bien, il faut mieux aller de l'avant. À partir de là, on pourrait dire, l'âme, à chaque fois, c'est elle qui décide. Mais pourtant, on a quelquefois l'impression quand même qu'il y a des morts injustes. Ah non, ça, faut se le supprimer. La mort injuste n'existe pas. Ça, c'est uniquement de notre point de vue. Et ce qui va être intéressant ce soir, c'est, vous allez voir, on va pas arrêter de voir les deux points de vue. Du point de vue de l'âme, vous allez voir, ça fait drôle. Du point de vue de l'âme, il y a des choses, ça paraît limite scandaleux si on savait pas que c'est l'âme qui pense. Parce que de notre point de vue formel, c'est pas du tout comme ça. Donc de notre point de vue, quand on voit que certaines personnes vachement bien meurent jeunes, alors qu'il y a une espèce de... que je ne nommerai pas, qui reste toujours en vie, vieux, alors là c'est vraiment scandaleux, c'est pas juste. Quand on voit un gamin de 6-7 ans là, comme ça, qui meurt, alors c'est pas... du point de vue de l'âme, c'est juste. C'est toujours juste. Seulement, comme nous ne le savons pas, comme nous on ne comprend pas, comme nous on ne sait pas la réponse, comme nous on ne sait pas le travail qui a été fait, ou on ne sait pas qu'est-ce que la mort provoque par rapport aux parents, par rapport aux proches, etc. Pour nous, c'est trop injuste. Mais non, c'est important de voir que du point de vue de l'âme, c'est elle qui choisit d'engendrer telle maladie, tel problème, etc. et qui fait que la mort est décidée. Donc il n'y a pas de mort injuste. L'âme décide. Sauf en cas, naturellement, de suicide. En cas de suicide, c'est la personne elle-même qui décide qu'elle ne peut pas supporter. Bon. Or, ce n'est pas du tout l'âme qui a décidé. Bon, vous savez que le suicide ne pose pas de problème moral, comme on a voulu nous faire croire. Ça pose un problème à la pauvre personne qui se suicide, parce qu'en fait, l'âme provoque vraiment des difficultés, provoque des situations au cours desquelles on est amené donc à changer, à évoluer, à se spiritualiser, mais jamais au-delà de nos moyens. Donc on n'a jamais aucune épreuve dans la vie au-delà de ce qu'on peut supporter. Jamais. Mais on est parfaitement libre de décider que si, je ne peux pas supporter. Ou bien que je pourrais peut-être supporter, mais j'en ai marre, ça fait une de trop, j'arrête. Ok. Simplement, il faut savoir qu'on se réincarne dans les mêmes circonstances, qu'on revit la même vie et qu'on a le même obstacle et que de toute façon, il faudra à nouveau le revivre. On fout, je me suicide. Eh bien, on s'en fout, on recommence. Parce que, à mon avis, celui qui va se lasser le plus vite, c'est pas l'âme, c'est la personne. Donc de toute façon, il faudra ressauter l'obstacle, il faudra revenir. Bon. Donc ça pose pas plus de problèmes que ça. Il n'y a pas de châtiment, quelquefois quand on a voulu dire, oh là là, ça on venait pas le... Non, non. C'est ça. On dispose de cette carte joker, à un moment donné. Mais bon, ça veut dire que si on était à deux doigts de résoudre le problème, c'est quand même bête de se retaper toute la vie, avec les difficultés, pour en revenir au même point. C'est bon, à réfléchir quelquefois. Deuxième cas où l'âme ne choisit pas, le cas du meurtre. Quand on est bien sûr assassiné par quelqu'un. Alors quand on est assassiné par quelqu'un, c'est là que vous allez voir si c'est pas triste, le point de vue de l'âme et puis le point de vue de la forme. Le fait que la personne meure, l'âme s'en fout. En effet, supprimer un corps physique ne pose pas le moindre problème pour l'âme. Ah, je vous l'avais dit, hein. Je veux dire, où est le problème alors? Ben, le problème, c'est qu'on intervient dans le projet d'une âme. C'est que finalement, quelqu'un intervient dans quelque chose qui était un acte de développement, qui était un acte de travail, et finalement l'âme avait prévu donc toutes sortes de choses, et là on lui bousille son plan, et donc ça pose un gros problème, et c'est là que c'est une erreur, c'est là qu'il y a une responsabilité karmique. Mais bizarrement, et c'est pour ça que ce genre d'enseignement, vous voyez, il faut mieux pas trop les crier dessus sur les toits, eh bien le fait de supprimer le corps physique de quelqu'un n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez que de notre point de vue, c'est exactement le contraire. Surtout si la personne qui est assassinée est un proche. Vous, le fait qu'on soit intervenu dans le projet de son âme, vous n'en avez rien à faire, mais qu'on vous ait retiré à la présence de cette personne, alors ça, vous ne pouvez pas le supporter. Et on comprend bien. Et c'est là où on voit bien tout à fait la double vision qu'on peut avoir du point de vue de la forme ou bien du point de vue de l'âme. Je ne sais pas si vous avez vu ce film extraordinaire, qui est pour moi un des plus beaux films ésotériques que j'ai jamais vu, au moins 10 fois. Ça s'appelle Un jour sans fin. Si vous ne l'avez pas vu, surtout précipitez-vous, louez-le, débrouillez-vous, volez-le, mais vraiment, il faut absolument voir ce film extraordinaire. C'est un type qui est amené à revivre sans arrêt la même journée, le jour de la marmotte. Et c'est vraiment la meilleure illustration de la réincarnation que j'ai jamais vue. Là, il suffit d'avoir le principe une journée égale une vie. Et on voit comment ce type, sachant que de toute façon, quoi qu'il fasse, le matin, il se réveille comme une journée nouvelle, il peut mourir, se faire écraser, sans aucune espèce d'importance, il se réveille dans son lit. Alors, il va vivre toute l'involution. Il va piquer de l'argent, il va faire des conneries, vraiment. Puis il va essayer de tromper des femmes, il va essayer de les avoir, enfin, toutes les choses, jusqu'au moment où il va passer dans l'évolution et il va arriver vraiment à devenir un type super chouette. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vous dis pas la fin. Mais vous voyez, donc, vous faites, quand vous regardez le film, vous faites un jour égale une vie, vous avez toute la courbe de l'involution et de l'évolution, c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on voit combien finalement, bien, l'âme se fiche exactement du nombre de corps qu'on a. On a tout le nombre de corps que l'on veut. C'est pour ça que l'âme, ça lui est complètement égal qu'on soit tué d'une fois, 10 fois, 15 fois. De ce point de vue-là, ce n'est pas important. Par exemple, la guerre. Bien, la guerre, le fait qu'il y ait par exemple à un moment donné 500 000 morts, 1 million de morts, d'un point de vue strictement physique et du point de vue de l'âme, ça n'a pas d'importance. Ça déblaie. Vous voyez que du point de vue inférieur, comment est-ce qu'on peut oser dire une chose pareille? Deux regards complètement différents. Je vais préciser quand même. Ce qui est grave dans la guerre, c'est pas les milliers de morts, c'est même pas les millions de morts. Dans l'histoire de la planète, on aura à nouveau un jour des continents qui s'effondreront, comme l'Europe par exemple. Il y aura à nouveau des réveils de volcans, il y aura des tremblements de terre absolument gigantesques, et il y aura à nouveau des millions et des milliards de morts dans l'humanité. C'est pas un problème. Ce qui pose un problème dans l'histoire de la guerre, c'est la haine. C'est ça qui est affreux. C'est quand dans la guerre, il y a de la haine, il y a, ça c'est une espèce de poison qui navigue dans le plan émotionnel, qui se répand partout et qui atteint tout le monde. Et ça c'est vraiment extraordinairement grave. Mais vous voyez, mais pas la mort des gens. Par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait des tas de gens qui étaient d'un côté ou de l'autre, du côté allemand ou par exemple du côté français, ou même dans la guerre de 14-18. Vous avez des tas de gens qui se battaient parce qu'ils faisaient partie de leur pays puis qu'ils étaient engagés là-dedans. Mais que ce soit du côté allemand ou du côté français dans les tranchées, si ça se passait, ils étaient prêts à fraterniser pour quelque chose parce que Il ne comprenait rien à cette guerre. Il n'y avait pas de haine. Alors bien sûr, il se massacrait, parce que si c'était pas moi qui le tue, c'est toi qui le tue. C'est la règle du jeu. Mais là, ce genre de mort n'a aucune espèce d'importance, ni sur le plan karmique, pour qui que ce soit. Il n'y a pas de haine. Il en va tout autrement quand il s'agit de camps où on extermine des millions de juifs, avec toute la haine qu'il y a derrière. Ou plus récemment, des tranchées que les Serbes ont ouvertes pour enterrer des Bosniaques vivants, par exemple mitraillés, avec une espèce d'élimination. Ou bien au Rwanda, quand on va massacrer à la machette, donc c'est son voisin. Donc vous voyez, c'est ça qui est extrêmement épouvantable. C'est la haine qui, à un moment donné, peut être développée pour tuer. Cette haine-là est un véritable poison. Mais le fait même de la mort physique, du point de vue de l'âme, n'est pas grave. Vous voyez, c'est là où on voit à quel point il y a deux façons de voir complètement la chose. Combien la mort du corps physique, et bien de ce point de vue-là, pouf, pour l'âme, c'est pas grave, on en refera un. Exactement comme dans le film Le Jour sans fin, où pour essayer de vérifier si ça marche bien, il essaye toutes les morts possibles. Et quand il voit qu'à chaque fois il revit, oh bah, bon, ben voilà. C'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ce qui accompagne la mort, l'émotionnel qu'il y a derrière. L'intention, la haine qu'il peut y avoir, la perversion, ça pose problème au monde. Mais le fait que même des millions de morts ensemble perdent, c'est pas important. Peut-être avez-vous d'ailleurs déjà lu des personnes, des témoignages comme la vie après la vie ou des choses comme ça, ou des gens qui ont fait des expériences de NDE. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on leur dit « mais ton temps n'est pas venu, il faut que tu rentres », il n'y en a pas un qui a dit « oui, à chaque fois il dit s'il vous plaît, on peut pas rester. Non, c'est pas ton époque. Ouais, mais quand même, on est bien ici, c'est sympa. Bon. Donc, c'est vous dire à quel point, finalement, donc, une fois qu'on a fait ce passage, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on le craignait autant? Parce que c'est rien, finalement. Voilà pourquoi, vous voyez, c'est intéressant de voir que la mort, donc, c'est deux façons de la voir. D'un point de vue personnel, quand on pleure la perte de quelqu'un, quand on perd un chat, un chien, un adulte, quand on voit des milliers de morts quelquefois, comme il y a en ce moment par exemple au Kenya, en Afrique en général, bon, c'est vraiment, émotionnellement, c'est très très dur. On dit, mais tous ces morts, en fait, pour eux, ça va très bien, merci. Alors eux, ils sont complètement guéris, impeccables. Non, c'est pour les gens qui restent, effectivement, qu'on peut craindre. Effectivement, pour la personne qui reste, c'est là qu'elle est le plus dur. Mais pour la personne, ça pose pas de problème, puisque justement, elle va revenir dans pas longtemps et avec un corps tout neuf. Donc, vous voyez, du point de vue de l'âme, la mort n'est évidemment pas un problème. Parce que tout simplement, du point de vue de l'âme, c'est même souvent, comme je vous l'ai déjà dit, une espèce de libération. En effet, quand l'âme est incarnée dans des formes très denses, eh bien, elle-même se perd. Sa propre lumière, son propre capacité d'amour, eh bien, est tellement diluée dans cet amas de matière dense qu'elle n'a très très peu de pouvoir, elle ne se reconnaît même plus elle-même, elle n'est même plus consciente d'elle-même, et quand la mort survient, c'est comme si elle sortait d'un cauchemar, comme si elle se réveillait. Alors, il y a les copines qui sont là, et « Ah, te revoilà !» Bah oui, dis donc. 75 ans là-dedans. Eh ben, je te dis pas. On n'a pas fait grand-chose, hein. 75 ans, on n'a pas beaucoup bougé. Quand je pense qu'il faut y retourner. Eh oui. D'un point de vue ésotérique, toutes les descriptions sont les mêmes. Du point de vue de l'âme, la vraie mort, c'est la naissance. Du point de vue de l'âme, la naissance, c'est une entrée en prison. Des textes vont même très loin en disant que plus tard, les humains, en connaissance de cause, auront beaucoup plus de compassion pour une âme qui s'incarne, le pauvre, et feront une fête du tonnerre à chaque mort, pour montrer, ah, mais vous voyez, ça dépend avec qui on est. Du point de vue de la forme, c'est l'inverse, mais du point de vue de l'âme, ben, ça se passe comme ça. C'est la naissance qui est une mort, et la mort qui est une naissance, une libération, justement, autre chose. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a vraiment des points de vue qui peuvent être totalement, totalement inverses par rapport à ça. Alors, dans ce processus, vous voyez, on a donc la mort provoquée par l'âme, et puis on a donc tout le processus, bien sûr, de la réincarnation qui va se passer après. Donc on va avoir tout cet enchaînement qui fait que la matière, elle, ne meurt pas. la matière, elle, elle ne va pas du tout mourir. Mais les formes, oui, à chaque fois. Alors bien sûr, ça pourrait nous paraître normal comme ça. Simplement, quand on réalise que la forme, c'est nous, on dirait qu'il n'y a pas moyen de négocier, de faire autre chose. Ben non, la forme meurt. Mais la matière ne va pas mourir. Tout ça parce qu'après, au moment de la mort, il y a ce qu'on appelle un processus de restitution. Et c'est là ce qui est important. C'est là où on voit l'intérêt justement de la mort. Le processus de restitution, eh bien, c'est tout simplement que tout ce qu'a gagné, tout ce qui s'est gagné du point de vue donc de la forme, eh bien, tout ceci va être restitué à la matière. Donc il va y avoir la décomposition de la forme, ça va retourner en poussière, comme on dit, et toute cette poussière, toute cette matière retourne justement à la matière. Et donc tout ce qui a été appris, tout ce qui a été pris justement pendant cette forme, eh bien, tout cet acquis, eh bien, retourne à la matière. De son côté, l'âme retourne beaucoup plus, donc dans une âme groupe qui est très proche justement de l'esprit. C'est comme si l'âme retourne vers l'esprit et la forme retourne à la matière. Restitution des deux principes, chacun à son principe directeur. Et alors, ça progresse. Tout ce que l'âme a pu faire comme travail et tout ce qu'elle a pu apprendre, eh bien tout ceci profite à l'esprit. Tout ce que la forme a pu apprendre, eh bien les matériaux qui la composaient, tout ceci, eh bien profite grandement à la matière. Voilà pourquoi, si vous voulez, à chaque fois, l'intérêt du processus de la mort, c'est ce principe de restitution. C'est que tout ce qui a été appris, eh bien ça permet à l'un et à l'autre, après, de progresser. Et quand une nouvelle forme va se faire, c'est avec de la matière régénérée. C'est avec de la nouvelle matière. C'est que finalement, vous voyez, le fait de cette restitution, c'est que à travers justement cette matière, eh bien, la matière progressivement elle devient de moins en moins opaque, de plus en plus reliée à l'amour. Et quand on va faire une nouvelle combinaison de formes, c'est avec de la matière qui a tellement été rendue plus amour par tout ce qui peut vivre que finalement, elle est elle-même déjà un peu plus avancée. On ne repart pas à zéro. À chaque fois, on attire une matière qui est de plus en plus spiritualisée. Tout le travail se fait comme ça, ensemble. C'est donc pas un travail personnel, individuel. Moi, le salut de mon âme, mon histoire, mon corps, ma matière. Non, non, c'est redispatché à l'ensemble. L'image de ça, c'est la chute des feuilles à l'automne. Eh bien voilà, les feuilles redescendent et finalement vont faire de l'humus qui va servir à la création de nouvelles plantes, à nourrir l'arbre, etc. Et on repart. C'est ça qui est intéressant. Il faut que vous considériez que à quel point la Terre, et ça on a tendance à ne pas s'en rendre compte, mais la Terre est un gigantesque endroit de mort permanente. Rien qu'au point de vue humain, est-ce que vous savez qu'à peu près il y a 40 000 morts par mois? Hein, parce que ça n'arrête pas, chaque seconde. Depuis que j'ai commencé la conférence, il y a au moins 500 morts. Oui, bon, j'exagère. Bon. Mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui sans arrêt se passe, du point de vue humain. Mais pensez-vous à ce qui se passe du point de vue des animaux. Les millions d'animaux qui meurent chaque jour. Les milliards d'animaux qui meurent chaque jour. Tous ceux qu'on tue pour se nourrir. Et puis tous ceux qu'on tue pour nourrir les animaux qui nous nourrissent. Tout ce qui meurt du point de vue des insectes, des poissons, des oiseaux. Tout ce qui meurt comme végétaux. Vous voyez, finalement, chaque jour sur la Terre, le nombre de formes qui disparaissent et qui meurent. La Terre est un gigantesque mouroir permanent. Mais on ne s'en aperçoit pas parce qu'aussitôt, il y en a plein qui naissent. Et donc, il y a finalement un mouvement extraordinaire de naissance et de mort qui fait que, sans arrêt, il y a cette restitution à l'ensemble et sans arrêt, à partir de cette restitution, de nouvelles formes naissent. Ça me fait penser, vous voyez, aux conifères. Un conifère, contrairement aux arbres qui perdent leurs feuilles ou les arbres marcescents, on a l'impression, quand on les voit, bon, à part le mélèze, mais on a l'impression qu'ils ne perdent jamais leurs aiguilles, que c'est toujours les mêmes. Bon, il n'y a pas de période où ils sont en moins. En fait, ils perdent toujours leurs aiguilles, un petit peu comme ça, par-ci, par-là, mais sans que ça se voit. À moins que vous ayez numéroté chaque aiguille. Celle-là, il n'y était pas. Bon. Mais sinon, en général, on ne voit pas. Donc si vous avez un conifère devant chez vous, vous dites, il est toujours là, quoi. Il ne change pas, lui, il pousse comme ça, mais toujours les mêmes aiguilles. Quoi. On ne voit pas le changement. comme ça la mort progressive naissante. Ben, vous voyez, pour nous, quand on voit le monde, c'est un petit peu ce qui se passe. Le fait de percevoir combien le monde est un gigantesque endroit où on meurt tout le temps, à chaque seconde, on ne le perçoit pas. Pour peu que dans votre jardin, non, moi tout va bien, mes arbres sont toujours en vie, mon rosier va bien, mon petit chat n'est pas mort, et moi-même je me porte assez bien, et dans mon entourage tout va bien. Donc on a l'impression, vous voyez, que les choses sont stabilisées pendant longtemps, et que la mort n'est pas là, loin, chez les autres, à la télévision. Voilà. Mais et on est frappé quand ah tiens j'ai un rosier qui est mort, oh mon chat a été écrasé, bon voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que là on prend conscience, mais c'est encore très momentané, c'est sur un point. Il faudrait se rendre compte au contraire, vous voyez, que sur Terre, eh bien la mort n'arrête pas, c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui fait que on a un recyclage de matière absolument extraordinaire et permanent, à travers lequel tout le travail sur la vie, sur l'esprit et la matière, finalement, se fait. Mort, naissance, c'est vraiment le cycle qui fait que, à travers tout ça, l'âme fait un gigantesque travail qui nourrit, justement, donc, l'esprit et la matière. Alors, bien sûr, quand je parle des formes, j'en parle d'une manière totalement générale. Je ne vous parle pas spécialement des humains. Toute l'histoire que je vous ai racontée avec mes cercles et mes carrés, c'est pas du tout spécialement l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de n'importe quel règne. C'est aussi bien valable pour une molécule que pour un arbre, que pour un humain, une planète ou une galaxie. C'est exactement la même histoire. Les règles de l'âme sont exactement les mêmes pour tout. C'est ce qui fait qu'effectivement, à chaque fois, si vous voulez, on ne peut pas garder une forme au-delà donc d'un certain travail qui a été fait. C'est pour ça que c'est quelquefois tout à fait désastreux quand on cherche au contraire à garder la forme. Mais l'exemple le plus évident, c'est prenez par exemple l'histoire d'un poussin. Un poussin, il a besoin de son œuf pour grandir. Voilà, il a sa forme. Puis après, il grandit, puis il remplit complètement l'œuf bien, etc. Et puis c'est le moment qu'il faudrait casser l'œuf. Et c'est là qu'il me dit, bah non, j'y tiens mon œuf, je l'ai décoré de l'intérieur, tout ça, bien. Je vivrais bien dans mon œuf. Un peu à l'étroit, certes, mais je vais essayer de survivre dans mon œuf. Bah, évidemment, il meurt. Bon. Donc, nous faisons exactement la même chose. Il faut se rendre compte que nous-mêmes, si nous gardons absolument les formes parce qu'on a peur de la mort, si nous voulons absolument sauvegarder certaines structures, certaines choses qui sont pourtant complètement caduques, notre conscience, je ne vais pas dire qu'elle meurt parce que l'âme ne meurt pas, bien sûr, mais l'évolution est complètement arrêtée. On va être finalement un peu comme des morts vivants. J'y reviendrai tout à l'heure un petit peu à la fin. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande nécessité, vous voyez, de casser complètement, donc pour arriver à percevoir, casser les formes, pour arriver à ce que tout ça, ça respire. Alors vous voyez que quand on dit ça, on voit combien l'énergie de mort est une énergie de progrès. À quel point à chaque fois, elle nous libère de tout ce qui pourrait entraver toute l'histoire de l'évolution. Toute l'histoire qui conduit donc à l'esprit matière. Combien chaque forme, eh bien, n'a qu'un tout petit but tout à fait limité et qu'on ne peut pas l'imaginer d'une manière pérenne. Pourtant, regardez, quand on imagine quelquefois la planète Terre à la fin de son évolution, on pourrait imaginer qu'effectivement, une Terre parfaite avec des humains radieux, tous au niveau du Christ, des animaux télépathes, des plantes extraordinaires, des minéraux. Vraiment, la planète telle qu'on ne peut même pas l'imaginer. On dit, mais voilà, ça y est, le paradis sur Terre, il est là. Eh bien, à ce même moment, la Terre serait détruite. Et on connaît cette date, c'est à peu près dans 4 milliards d'années, au moment où le Soleil va tellement grossir qu'il va engloutir la Terre. Et vous voyez, si on n'a pas en arrière-plan l'histoire de l'esprit et de la matière, on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais à quoi bon? Si on réussit enfin à faire une humanité parfaite, à faire un minéral, un végétal, un animal parfait, une planète extraordinaire, et qu'au moment où on le réussit, c'est comme si c'était pour rien, parce que tout est fichu en l'air. Eh bien, ce n'est pas pour rien. C'est que toute cette matière rendue parfaite, cette matière qui serait à ce moment-là totalement amour, eh bien, est totalement restituée donc à la matière et à l'esprit, et là on aura fait un gigantesque pas dans la rencontre entre les deux aspects. On aura vraiment réussi, du point de vue de l'amour, à unir l'esprit et la matière. Ce serait la fin de l'histoire. Mais vous voyez, momentané, parce qu'après il y a une histoire qui continue, mais je ne voudrais pas m'entraîner là-dedans. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, sinon ça a l'air absurde d'arriver à créer un monde de beauté, un monde d'harmonie, un monde d'amour. À quoi ça sert si c'est pour le bousiller? Ben, ça ne sert pas en tant que tel. Oui, c'est un petit peu difficile à entendre quand nous sommes les formes, mais les formes ne sont pas un but. En aucun cas, nous ne sommes un but. Nous ne sommes qu'un moyen. Le but, c'est l'esprit et matière. Le moyen, c'est tout ce que nous faisons pour y arriver. Voilà pourquoi la mort nous rappelle constamment cela. Nous ne sommes pas un but, nous disparaissons, et tout ce que nous avons réussi à développer, c'est dispatché à l'ensemble. À partir de là, on recrée quelque chose d'autre, et on avance dans le but qui est justement l'union entre l'esprit et la matière. Bon. Alors là, on pourrait dire, vous voyez, puisque notre thème annuel, c'est la guérison planétaire, ben, on pourrait dire que quand la mort survient, on est complètement guéri. On dit même souvent que c'est le meilleur moyen de guérison, c'est la mort. C'est de cette manière-là qu'effectivement, que toutes les maladies cessent. Alors on peut dire, c'est malin ça. Ah ben ça c'est intelligent. Ah ça c'est sûr, alors là, je vois bien à l'hôpital, cher monsieur, je vais vous parler franchement, dans 3 jours, eh bien vous serez totalement guéri. Vous allez faire un voyage dans une voiture noire. Bon. Évidemment, on a défini il y a 2 mois la maladie comme étant le résultat d'une disharmonie entre l'âme et la forme. Là, on pourrait dire, il n'y a plus de disharmonie puisque il n'y a plus de forme. Donc évidemment qu'il y a une guérison. Enfin, ce n'est pas ce qu'on appelle habituellement une guérison. Ça, c'est uniquement parce que, vous voyez, on raisonne d'une manière limitée. En effet, la mort est le principal processus de guérison, mais vécu sur plusieurs formes. En effet, à chaque fois, si vous voulez, qu'une mort intervient, comme je disais, eh bien, la forme d'après bénéficie de tout ce qui a été fait, et finalement, la relation entre l'âme et la forme s'améliore constamment. Et donc, c'est une guérison, finalement, à long terme. C'est ce qui fait que, quand on meurt, effectivement, l'âme triomphe, l'âme a décidé que ce travail particulier avec cette forme était terminé, mais par conséquent, une autre commence, un autre travail commence. Et finalement, cette guérison, c'est ce qui fait que progressivement, à travers plein de vies, nous guérissons progressivement toutes les formes. Et un juste rapport entre l'âme et la forme finit par s'établir. Ce qui n'est pas du tout le cas au début. Voilà pourquoi, si vous voulez, tout ce travail de l'âme dans la forme est un long travail de guérison planétaire, auquel nous ne sommes pas seuls à participer. C'est aussi donc les animaux, les végétaux, les minéraux, les devas, tout ce qui vit finalement sur cette planète Terre, à un moment donné, eh bien, redonne, restitue son travail, c'est ce qu'on appelle la mort, pour que tout le monde en profite et que tout cela avance. C'est pour ça que la mort est un grand processus de progrès et de guérison.